Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à tous ce matin. Dieu nous accueille, les petits, les grands. Dieu est avec nous et il se réjouit de nous retrouver ici en ce lieu tous ensemble. Il se réjouit aussi si vous pouvez suivre ce temps en direct depuis ailleurs, en streaming. Bienvenue donc au nom de toute l'équipe de Sculpt. Mais surtout, bienvenue au nom de notre Dieu qui nous invite à lui consacrer ce temps régulièrement et aujourd'hui en particulier. Et nous voulons le placer au centre de ce temps, comme nous voudrions le placer au centre de nos vies et au centre de notre communauté. Et dans la vie de notre communauté, je vous propose quelques annonces. Alors, une première annonce. Dans l'ordre demain, alors je ne sais pas s'il y a des slides, non pas cette fois, ok, alors écoutez bien, dans l'ordre chronologique, demain lundi 10 à 18h à la chapelle, un espace louange, un temps de chant et de louange à la chapelle. Ensuite, vendredi à 19h30, le colloque avec l'élection du conseil de l'église. Dimanche prochain, il n'y aura pas beaucoup d'enfants ici, j'imagine, parce qu'ils sont sortis toute la journée. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour les inscrire, si jamais. Ils vont à Servion. Merci à tous ceux qui les encadrent, déjà. Un tout petit peu plus loin, dans deux semaines, Rebecca, dans une semaine, à lundi, juste après. Ok, je crois que c'était... Okay. Alors, dans un peu, poil plus d'une semaine, Rebecca part de nouveau au Nigeria pour deux semaines. Tu dis juste quelques mots ? Tu dis juste...
Oui, demain, dans une semaine, je pars de nouveau pour deux semaines au Nigeria pour terminer la formation que j'ai commencée avec une équipe à début janvier. On va avoir de nouveau 50 participants parce qu'ils terminent la formation, comme je viens de dire. Et j'apprécie beaucoup vos prières parce qu'on a déjà eu quelques soucis jusqu'ici, mais on sait qu'on va rencontrer encore d'autres, sûrement aussi, et j'apprécie vraiment vos prières et je me réjouis de vous voir. Début juillet, je serai de retour.
Et alors, on va déjà en faire une de prière. Seigneur Dieu, merci pour Rebecca, son travail ici, mais aussi tout ce qu'elle peut amener là-bas au Nigeria et toute l'équipe qui travaille avec elle. Nous te remettons toute cette organisation à l'avance. Nous te remettons les temps qu'ils auront sur place et que tu les gardes des accidents, des autres soucis qui peuvent encore survenir, que tu permettes que tout se règle, se mette en place et qu'ils aient vraiment ta bénédiction. Alors, que ta main soit sur Rebecca en particulier et aussi sur la famille qui sera là pendant ce temps aussi. Amen. Je t'en prie. Et puis, pendant qu'on est aux nouvelles, il y a Johan, à qui vous pourrez souhaiter un bon anniversaire, et puis des nouvelles rapidement d'Irène qui a été opérée pour la hanche et d'après ce que j'ai compris, tout va bien. Ok, voilà. Comme ça on a fait un peu le tour de certaines nouvelles, il y a certainement d'autres nouvelles, on ne peut pas tout partager là parce que c'est encore un dimanche de plus, et puis l'été qui s'approche, ouf, plus que quelques semaines avant les vacances, hein. Bien mérité, enfin en tout cas pour certains, les vacances, et peut-être le bien mérité aussi. Quelques semaines après Pâques, en fait c'est fait 7 semaines exactement, j'ai vérifié sur le calendrier, je l'ai vérifié pour vous, mais en fait c'est un peu bête, parce que c'est justement ça que ça veut dire, Pentecôte, 50e, 50 jours, donc on est exactement dans les temps. Alors, on oublie un petit peu ce genre de connaissances chrétiennes, puisque c'est, pour beaucoup, c'est juste un jour de congé de plus, comme d'autres fêtent, ils ont fêté ou ils fêtent l'Aïd el-Kébir, par exemple. Pour nous, juste avant de laisser ses disciples et de reprendre sa place auprès du Père, Jésus leur a dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, les extrémités de la Terre, ça grandit depuis l'époque, mais c'est toujours valable. Et ce sera justement le thème du message de Philippe tout à l'heure. Et pas toujours facile de comprendre de quoi il s'agit pour nous, personnellement, ce Saint-Esprit. C'est Dieu. C'est une des personnes de la Trinité. C'est le lien entre le Père et le Fils. Dès la création, c'est quelque chose, quelqu'un, Dieu, qu'on peut recevoir en nous, qui peut agir en nous. Mais en même temps, ce n'est pas toujours pareil, d'un moment à l'autre, d'une personne à l'autre. On parle d'une force, d'une nuée, un souffle, une présence, un feu, de l'eau, une colombe, des langues de feu. Il ne se manifeste pas toujours de la même manière. Parfois, ça déborde dans certaines églises un peu plus que d'autres. Puis parfois, ça reste tout à l'intérieur, à se demander si c'est bien lui. Et pourtant, on est tous appelés à être remplis du Saint-Esprit. Alors, je vous propose de prier. Et pour ce temps de prière, je vous propose de fermer les yeux et puis de faire quelques secondes de silence, en commençant en disant « Seigneur, je suis là. Je me présente devant toi comme je suis. » Voilà, vous pouvez le répéter et juste laisser quelques secondes de silence dans votre cœur. Seigneur, je suis là, je me présente devant toi comme je suis. C'est des fois dans ces quelques secondes de silence que Dieu se manifeste. Seigneur, nous sommes là ce matin pour ce culte et nous nous plaçons devant toi, tels que nous sommes, avec nos cœurs des fois bien chargés, nos pensées qui ne sont pas toujours à la hauteur, nos corps qui des fois ont de la peine à suivre. Et toi, tu nous accueilles tels que nous sommes. Alors nous voulons te déposer toutes ces choses qui nous préoccupent pour te consacrer ce temps. Que par ton Saint-Esprit, tu nous permettes de vivre ta présence, que tu agisses en nous, que par ton Saint-Esprit, tu nous transformes toujours plus à ton image, que par ton Saint-Esprit, nous puissions avancer avec toi dans nos journées et nos semaines. Amen. Alors, je laisse la place à David et à toute l'équipe Louange. Et on va prendre un temps pour partager qui est Dieu au travers de nos chants.
Chant de célébration, je loue ton nom éternel. Vous vous souvenez comment ça va les enfants? Il y a une petite chorégraphie là autour de ce chant. Hein? Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payé pour moi, excusez. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel.
Oui, Seigneur, merci. Merci d'être venu sur terre et de nous montrer le chemin, de nous montrer comment vivre à tes côtés. Seigneur, c'est une vraie joie. Je veux louer ton nom, je veux louer l'Éternel tous les jours. Amen.
Garde ta parole serrée dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je pense et je repense, je chéris dans mon cœur ces mots brûlants d'amour qui me parlent. Au jour de tentation, au temps de la détresse, au long des jours, toujours que tu conseilles, viennent et reviennent à mes oreilles, si clair et plus doux que le miel. Je garde ta parole. Contre toi, je pense et je repense, je chéris dans mon cœur ces mots brûlants d'amour qui me parlent de toi et que mon cœur, tout mon cœur, toute ma vie de toi soit imprégné, de toi soit le reflet. Sainte parole me guide et me console, me corrige et me façonne. Je garde ta parole serrée dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et je repense, je chéris dans mon cœur ces mots brûlants d'amour qui me parlent de toi. Oh, je voudrais ne rien perdre de toi, que les bruits, les soucis n'étouffent pas ta voix.
pas facile de tout donner. Et pourtant, même si on n'y arrive pas du premier coup, on est invité à le faire régulièrement, à se reposer ses questions et à se repositionner face à Dieu. On va laisser les potes aller dans le groupe, je vais prier pour eux. Merci Seigneur pour tous ces enfants et cette vie que tu mets dans la communauté, que tu les accompagnes dans leurs activités, dans la suite de leur culte, que tu gardes et renouvelles les moniteurs aussi qui, dimanche après dimanche, prennent du temps aussi pour partager qui tu es avec eux. Merci pour eux, que tu les gardes et les accompagnes aussi dans leur développement et dans ce qu'ils vivent ici. Que tu nous gardes aussi dans la suite du culte et avec Philippe pour la prédication. Amen. Voilà, les enfants, je vous laisse rejoindre les groupes. Bonne suite de culte. À tout à l'heure. Et Philippe, je laisse la place. Tu as des choses à régler encore ou... C'est bon ? Ça va aller ?
Après, je crois.
D'accord.
Merci, Joël. Bonjour à chacun, à chacune, joyeuse Pentecôte, qu'elle vous soit bienfaisante, tonique, j'espère. Nous aurons, après le temps de prédication, un petit moment avec Slido. Donc Slido, c'est une appli que vous pouvez installer sur votre smartphone, et en renseignant le numéro qui est là, posez des questions qui vous tiendraient à cœur suite à la méditation, à la prédication de ce matin. Voilà, un petit moment autour des 3-4 meilleures questions, enfin celles pour lesquelles vous aurez voté. C'est pas moi qui les choisis, c'est celles qui apparaissent en fonction de vos votes. Donc si vous avez à cœur de participer par cette manière, nous prendrons quelques instants pour le Slido. Les pentecôtistes. Ah, les pentecôtistes. Alléluia!
C'est bien.
Mais pour nous, le plus souvent, sauf pour Boris, les pentecôtistes, ce sont les autres. Des frères et sœurs que nous estimons, que nous aimons même dans le Seigneur, mais que nous trouvons, disons, un peu trop exubérants à notre goût. Que de qualités n'ont-ils pas pourtant qui devraient exciter parfois notre jalousie? Oui, les pentecôtistes, ce sont eux, les autres. Sauf que pentecôtistes, nous le sommes aussi. J'espère. Alléluia. Nous le sommes aussi et autant qu'eux. Car qui sommes-nous ici ce matin, sinon nous aussi, les héritiers et les héritières de cette fameuse Pentecôte à laquelle nous faisons remonter la naissance de l'Église en tant que forme dernière, ultime du peuple de Dieu. D'où l'intérêt que représente pour nous cet événement unique de la Pentecôte, fondateur de l'immense communauté des croyants et des croyantes de tous les temps, de toutes les cultures, de toutes les sensibilités. L'Église que Dieu bâtit et qui, nous le savons, dépasse largement les murs de cette chapelle, de cette église locale. Une communauté d'une immense diversité. Alors relisons ce matin le récit que nous en a laissé Luc, un médecin férus d'histoire et qui nous permet, avec le récit qu'il fait de la Pentecôte, de bien en saisir la portée. C'est en acte 2, des versets 1 à 13, et je vais laisser Joël lire pour nous ce texte.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : mais tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres : qu'est-ce que cela veut dire ? D'autres s'esclaffaient : ils sont pleins de vin doux.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, le jour de la Pentecôte commence donc par des disciples qui sont tous ensemble, rassemblés dans une même pièce. Et nul ne pourra dire ce matin que nous ne sommes pas d'une fidélité exemplaire à l'égard des disciples, rassemblés que nous sommes dans une même pièce à leur suite, comme eux. Toutefois, ils ne vont pas passer leur journée, ni le reste de leur vie d'ailleurs, en attendant que ça se passe, assis dans une même pièce. Parce que vivre ainsi, ce ne serait pas fidèle à la vocation chrétienne. Et Dieu intervient donc pour les secouer. Et quelle secousse ! Il va leur sortir la langue de leur bouche. C'est ce que nous célébrons ce matin, non pas comme un événement ayant eu lieu autrefois, mais comme ce que Dieu accomplit aujourd'hui encore. Dieu intervient pour secouer les siens et leur sortir la langue de la bouche. Et aujourd'hui, Pentecôte est pour nous l'occasion de dire que nous recevons des langues de feu et que nous sommes capables de dire les merveilles de Dieu. Voilà ce que j'aimerais que nous méditions et que nous retenions ce matin. Nous recevons des langues de feu et nous pouvons dire les merveilles de Dieu. Recevoir une langue de feu. Les disciples, rassemblés dans une même pièce, reçoivent le Saint-Esprit, non pas sous la forme d'une colombe, non pas sous la forme d'un souffle discret, mais sous la forme de langue de feu. où sont les langues de feu ce matin? Que sont ces langues de feu? Et où est le Saint-Esprit, le feu divin, le souffle? Où est-il aujourd'hui? Parce que ni feu ni vent ne semblent avoir encore agrémenté notre culte ce matin. Et pourtant, je disais que Pentecôte n'est pas qu'un souvenir du passé, mais notre présent, notre actualité. Où sont les langues de feu? Fort heureusement, plusieurs d'entre vous avaient une solide culture biblique. D'autres découvrent la Bible. Et ensemble, nous nous exerçons à la lire, à la méditer, la Bible, pour essayer d'en comprendre la substance, les textes, le sens, les intentions. Et ensemble, je pense que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir que les textes de la Bible ne doivent pas toujours être pris au pied de la lettre, de manière littérale, parce qu'ils sont composés, comme ici, par de nombreuses images qui parlent de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qu'il nous faut essayer de comprendre, de décoder, de s'apprivoiser. Et dans le cas présent, le Saint-Esprit est ce qui permet aux disciples d'entrer en communication avec des personnes venues de l'étranger. Des hommes et des femmes qui ne parlent pas leur langue. Et comment mieux représenter le fait que nous sommes capables de parler une nouvelle langue qu'en racontant qu'une langue de feu qui n'a donc rien à voir avec la langue que nous maîtrisons déjà, vient sur chacun, chacune de nous. Comment mieux représenter ce miracle de la possibilité de la communication par l'expression d'une langue de feu? Parce qu'une langue de feu, c'est surnaturel. Parce que parler une langue étrangère, ce n'est pas naturel. Mieux que cela, parler une langue tout court n'est pas naturel. Il y a parmi nous des logopédistes qui pourraient venir l'exprimer infiniment mieux que je l'exprime, mais parler une langue tout court n'est pas naturel. C'est le travail d'un long apprentissage pour apprendre les mots, pour savoir les utiliser ensemble, pour faire des phrases qui seront comprises par d'autres que moi, à commencer par « Maman, j'ai soif. Papa, j'ai peur. » Ce que je dis doit être compris par d'autres que moi. Alors oui, cet événement de Pentecôte est proprement surnaturel au sens où il ne laisse pas les disciples de Jésus dans leur état naturel, entre eux. Cette langue est étrange, de feu, suffisamment étrange pour leur permettre et pour nous permettre d'entrer en communication avec des étrangers. Elle est de feu. Le feu, c'est ce qui brûle. Le feu, c'est ce qui brûle le bois, par exemple. Une langue de feu peut donc brûler une langue de bois. La langue de bois, dans le langage courant, c'est lorsque nous parlons pour ne rien dire. On utilise des mots connus par tout le monde, on tourne autour du pot, on tourne autour du sujet, on fait du small talk, on parle beaucoup, puis on ne répond pas vraiment aux questions. On ne touche pas à l'essentiel. On est en surface. On se plaint souvent que les responsables politiques utilisent la langue de bois pendant leurs interviews. Il arrive que les chrétiens et les chrétiennes en soient aussi capables de langue de bois. Particulier quand les questions deviennent trop précises, un peu embarrassantes, un peu incisives. Vous, les chrétiens, vous tolérez ces injustices ? Vous, les chrétiens, là, le sort des Gazaouis, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre ? Vous, les chrétiens, les abus, ça vous interpelle ? Vous, les chrétiens, dans un monde désespérant, vous n'avez rien à dire ? Avec Pentecôte, cela n'est plus possible. Parce que la langue de bois n'est plus permise. On ne peut plus se cacher derrière des formules de catéchisme, de théologie, qui ne sont pas compréhensibles par des étrangers de la foi, qui, eux, n'ont pas eu de séance, de formation pour comprendre les mots, les apprendre. Alors, parler de Dieu, parler de résurrection, parler de grâce, parler de providence, parler de foi, parler de salut, doit se faire sans se cacher derrière un vocabulaire religieux. Un peu de langue de bois qui brûle immédiatement avec les langues de feu. Ce texte, il nous dit que nous sommes capables de trouver les mots justes pour nous faire comprendre. Ce texte dit que nous pouvons passer notre langue par le feu pour la purifier de tout ce qui l'empêche d'être claire, compréhensible, accessible. Il y a dans l'image de la langue de feu une exigence d'une langue qui ne peut pas se contenter d'être une langue mollassonne, paresseuse, banale, ordinaire. La langue de feu, elle parle d'une langue qui est débarrassée des mots fourre-tout qui ne veulent pas dire grand-chose, de ces mots qui tournent autour du pot pour jamais arriver au fond des choses. La langue de feu, c'est une langue de précision, c'est une langue qui est capable de dire précisément nos idées, nos émotions, nos envies, nos projets. C'est une langue capable de parler du monde tel qu'il est, dans sa complexité, pas d'un monde rêvé, d'un monde tel qu'il est, avec ses tours, ses détours. Parce que cette langue de feu est une langue qui a brûlé tout ce qui est grossier, tout ce qui manque de finesse, de justesse, de droiture, tout ce qui est banal, gris, commun. La langue de feu est une langue d'un niveau supérieur, surnaturel, qui touche juste. C'est une langue qui ne se contente pas de quelques mots pour tout dire. Parce qu'il n'est pas possible de tout dire avec seulement quelques mots. Pensons ne serait-ce qu'à l'amour. Comment utiliser le verbe aimer, quand ce n'est pas le verbe kiffer, de la même manière pour les bonbons, un groupe de musique, un paysage, un pote, une manière enseignée à l'université, une matière enseignée à l'université, et l'être qui nous fait chavirer lorsqu'on l'aperçoit. Cet être à l'évocation duquel notre cœur s'emballe, notre peau frissonne, notre vue se trouble, pour n'évoquer que quelques traits caractéristiques de la personne qu'on aime. Se pourrait-il qu'une telle personne puisse se contenter d'un « je te kiffe » voire « je te kiffe grave » ? La langue de feu, elle nous rend communicants et elle nous rend poètes. Elle nous donne le désir ardent de trouver les mots qui diront la réalité du moment, la profondeur d'un sentiment, l'originalité d'une idée, la beauté d'une action, le caractère infiniment gracieux de la vie, la finesse de l'œuvre de Dieu, la beauté de sa grâce. Pentecôte célèbre notre capacité à décrire le monde avec précision et à nous faire comprendre de celles et de ceux qui n'ont pas passé leur temps assis avec nous dans la même pièce, dans le même bouillon de culture, avec le même catéchisme. Maintenant, la langue de feu, elle n'est pas destinée à faire de nous des champions de l'éloquence, des maîtres dans l'art de la rhétorique ou des effets de manche. La langue de feu, elle parle l'esprit de Pentecôte, qui consiste à nous arracher aux déterminismes sociaux, à tout ce qui semble convenu d'avance. Voyez la diversité de ces disciples rassemblés. Certainement, la langue de feu dit-elle que nous pouvons transcender notre condition, ne plus être étrangers, étranges pour les autres, que rien n'est nivelé, que nous ne sommes pas condamnés à être des prisonniers d'une culture qui nous tiendra toujours à distance de certaines personnes. Ce texte ne parle pas de disciples qui se mettent à parler une langue merveilleusement riche pour ne rien dire. Ils sont au contraire rendus capables de parler des merveilles de Dieu. Et là encore, il me semble que ce texte nous incite, nous indique que nous sommes capables d'avoir des conversations qui valent mieux que les discussions sur la pluie et le beau temps, sur ce qu'on va manger ou boire. Toutes ces conversations de la vie quotidienne, ces small talk, qui ont une utilité. Il ne s'agit pas de les éliminer, mais ça ne fait pas la vie. Du moins, la vie selon ce que l'Évangile nous donne d'espérer. Quelque chose de beau, de fort, de déterminant, quelque chose qui nous met en route, quelque chose qui nous change de l'intérieur, quelque chose qui nous donne une espérance, quelque chose qui nous engage sur le terrain. Les disciples sont rendus capables de parler des merveilles de Dieu à celles et ceux qu'ils rencontrent. Cela signifie qu'ils sont désormais capables de parler des choses essentielles, de ce qui donne du sens à la vie. Ce que Dieu fait, c'est de créer le monde, selon ce que le livre de la Genèse raconte dès le premier chapitre. Il crée le monde et il le fait par la parole. Dieu crée le monde par la parole. C'est dire l'importance de la parole. Créer le monde, c'est aussi le rendre vivable, ce que fait Dieu. C'est faire en sorte que ce monde dans lequel nous vivons ne soit pas constamment, partout, tout le temps, un enfer. Mais que ce monde puisse être un jardin d'Éden, une merveille de Dieu. Les merveilles de Dieu, c'est tout ce qui rend notre monde plus vivable. C'est tout ce qui rend notre vie plus belle, plus jouissive. Parler des merveilles de Dieu, c'est partager avec d'autres ce que nous avons observé. C'est dire ce qui rend le monde plus juste, plus fréquentable. Ce qui rend les êtres humains plus vivants, plus aimables. C'est ça qui est essentiel dans la vie. Pentecôte est la fête par laquelle nous célébrons notre capacité à pouvoir parler des choses essentielles. Parler des choses qui nous engagent à fond, qui sont décisives pour notre bonheur et que nous croyons décisives pour le bonheur de nos prochains et de nos prochaines. Est-ce que nous osons parler des merveilles de Dieu dans nos vies? Quand avons-nous dit la dernière fois à quelqu'un ce que Dieu a fait pour nous? Osons-nous dire qu'on était au fond du trou et que Dieu nous a relevés? Chers amis, je vous reconnais capable de manier la langue de feu. Vous l'avez compris, ce n'est pas une langue convenue, ce n'est pas une langue faite de stéréotypes, de formules toutes faites et interchangeables. Je vous reconnais capable d'avoir votre propre langue à vous pour exprimer les merveilles de Dieu pour dire le fond de votre espérance, de votre émerveillement, pour communiquer vos désirs, mais aussi vos doutes, vos combats, vos luttes, vos chutes, vos questions, pour contredire les discours qui vous semblent inappropriés, voire carrément injustes ou toxiques. Les disciples parlent des merveilles de Dieu, pas de la religion, pas de l'Église. Il ne faut pas se tromper de sujet ici. Nous sommes appelés à être des témoins du Dieu éternel, du Dieu créateur, du Dieu sauveur, pas de ses succursales, aussi sympathiques soient-elles. Chers amis, vous êtes en mesure, vous, de manier la langue de feu, d'être les bardes qui feront retentir l'évangile autour d'eux, d'être ces bardes qui feront entendre des paroles capables de faire entrevoir la puissance de la vie qui fraye son chemin dans notre histoire, des paroles capables d'offrir des questions aux gens, des questions qui ouvriront des espaces de réflexion et donc des espaces de vie, parce que la réflexion, c'est la vie. Des paroles capables d'émouvoir, de rassurer, d'encourager, de stimuler, de raisonner, de convaincre, d'interpeller, de réjouir, de consoler, de contrarier, d'étonner. Toute chose qui nous met en mouvement, qui nous évite de faire du surplace, qui nous rendent plus vivants, qui nous mettent hors de nous-mêmes, c'est-à-dire selon le mot grec qui est utilisé dans ce texte, verset 12, toutes choses qui nous font exister, exister. Alors où entendrons-nous des mots comme ceux qui dans les temps anciens ont incité des hommes et des femmes à se mettre en marche? Où entendrons-nous ces mots ? Si ce n'est par ici, parmi celles et ceux qui sont censés manier la langue de feu. Où entendrons-nous les mots nécessaires pour retrouver le goût de la vie quand la vie devient si fade, si ce n'est ici, parmi les hommes et les femmes qui ont pour vocation première de dire les merveilles de Dieu? Où entendrons-nous les mots nécessaires pour ne pas désespérer, pour ne pas céder à la fatigue, au découragement, à l'apitoiement, si ce n'est ici, dans ces lieux où l'Esprit fait son œuvre, pour que nous puissions manier les langues de feu, pour que nous puissions dire les merveilles de Dieu, et à partir de là, rendre à chacun, à chacune, les moyens d'exister pleinement, follement et généreusement. Joyeuse Pentecôte, maniez la langue de feu, dites les merveilles de Dieu pour que son œuvre se fasse dans le monde. Amen.
Thank you.
minutes pour le Slido. Super question. Alors, je rappelle, hein, le Slido, il y a zéro préparation avant. On n'est pas dans une prédication. Donc, merci de me faire grâce si forcément je vais taper un peu à côté. Mais j'aimerais vraiment honorer les questions qui ont été posées puis qui remportent de beaux suffrages. Je ne sais pas si vous les voyez tous. Vous les voyez, les suffrages, le nombre de votes par question sur votre appli? Vous les voyez? Merci. Ok, c'est intéressant. Ça me dit aussi que je n'ai pas le droit de tricher, en fait. Bon, question 1, qui a 5 suffrages, on va la laisser de côté parce qu'elle est vraiment compliquée. Non, ce n'est pas vrai. La langue de feu, première question. La langue de feu est-elle synonyme de parler en langue? Si oui, est-ce le signe incontournable du baptême du Saint-Esprit? Super question. Alors, ici, sans aucun doute possible, oui, la langue de feu est synonyme de parler en langue. Pourquoi? Parce que le texte, pas Bibi, le texte dit que les disciples se font comprendre d'une multitude de personnes qui ne parlent pas leur langue. Donc, ici, sans aucun doute possible, pour une partie en tout cas, la langue de feu est la capacité de parler en langue. Parler en langue compréhensible. Pas en langue incompréhensible. En langue compréhensible. On est fait pour être compris, pas pour être incompris. Ce que Paul va détailler ailleurs dans la première aux Corinthiens en disant, imaginez, suivant comment vous parlez en langue dans vos assemblées, si quelqu'un vient de l'extérieur, il va dire, vous êtes complètement barjot. Parce que l'idée, c'est d'être compris, pas d'être incompris. Donc ici, oui, les disciples qui sont des gens simples, comme vous et moi, des gens tout simples, des Galiléens, d'une petite région du territoire d'Israël, ces gens se font comprendre de gens qui ne sont pas Galiléens. Il y a parmi eux des Arabes, des Romains, des Syriens. Intéressant, hein, ça, on sait à quelque chose aussi, hein, tout ça. Et oui, donc ils sont capables de se faire comprendre. Donc ici, sans aucun doute possible, la langue de feu, ça leur permet de parler des langues étrangères et en particulier de se faire comprendre. Maintenant, deuxième partie de la question. Il a disparu ma question? Ah non. Est-ce que c'est le signe incontournable du baptême du Saint-Esprit? Alors là, j'ai pas le temps, je vous le dis franchement. Mais, en deux mots, je suis assez prudent sur cette question du baptême du Saint-Esprit. Moi, je fais partie, dans ma tradition et dans mes études et tout ça, de ceux qui pensent que le Saint-Esprit nous est donné lors de notre conversion, qu'il n'y a pas de seconde, de troisième ou de douzième expérience avec le Saint-Esprit, ou plus exactement qu'il peut y en avoir 1012 dans la vie, mais que le baptême du Saint-Esprit, il intervient au moment de notre conversion. Et en aucun cas, je ne vois dans les Écritures, je ne parle pas de la pratique de nos églises, hein, je ne vois dans les Écritures le parler en langue lié au baptême du Saint-Esprit, au fait que le Saint-Esprit vient nous sauver. Je ne vois pas ça. Mais venez me contredire, venez en discuter, je me réjouis d'avoir une discussion avec vous là-dessus. Je crois au baptême du Saint-Esprit au moment de la conversion, pas forcément accompagné d'un don des langues. Je connais des gens qui ont reçu des dons surnaturels au moment de leur conversion, mais pas tous, pas forcément, et donc je n'en fais en tout cas pas une condition. Ça va? Vous êtes avec moi encore? Une question, je ne suis pas sûr si elle est entière ou partielle, mais je la lis. À l'inverse, alors à l'inverse de quoi? Nous sommes considérés par certains pentecôtistes comme des tièdes. Problème culturel ou aurait-on vraiment quelque chose à changer? Ah, c'est un vieux débat. Hein, je pense qu'il a à peu près 2000 ans à lire certains échanges au concile de Nicée ou de Constantinople pour les dates. Vous allez voir Eliot, il vous dira exactement quand c'était le symbole de Nicée et tout ça. C'est un vieux problème, hein. Moi, je pense que Dieu nous change, mais il ne change pas radicalement notre personnalité. Et que des gens plutôt posés, plutôt calmes, plutôt réservés ne deviennent pas des gens passionnés et passionnels du jour au lendemain. Vous l'avez compris, moi, je suis plutôt un petit peu expressif comme ça. Et ben, Dieu ne m'a pas changé du jour au lendemain dans ce domaine non plus. Ce que je voulais dire par là, c'est que je pense qu'il y a une notion culturelle, mais culturelle de culture chrétienne, pas culturelle de pays, hein, parce qu'il y a des pentecôtistes dans tous les pays du monde. Il y a des questions culturelles, de culture chrétienne. Souvent, on reproduit, en tout cas pour un moment, ce qu'on a vécu dans un endroit. Des fois, il faut des années pour sortir d'une certaine culture évangélique. Moi, j'ai appris avec vous à sortir d'une culture évangélique, je peux vous dire, qui était vachement plus rentrée que ce que je m'autorise à faire avec vous ici. Dans l'église d'où je viens, lever les mains, ça ne se faisait pas trop. Alors, je ne suis pas aussi expressif que mes amis de l'église du Réveil, mais je trouve que j'ai déjà fait un petit bout du chemin. Après, oui, il y a un zèle chez nos amis pentecôtistes qui m'interpellent et que je leur envie, honnêtement. Je trouve qu'on est un peu mou du genou. Nous, les chrétiens évangéliques lambda, issus plutôt du mouvement réformé et du réveil de Genève. Un petit peu mou du genou. Ceux qui sont plutôt nés du réveil du Pays de Galles, grand mouvement pentecôtiste, revivaliste, bah, moi, leur zèle m'excite. J'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus ressemblant, avec quelque prudence, au leur. Donc je pense qu'il y a une dimension culturelle. Je prends une dernière question. Pourquoi Luc utilise-t-il une image symbolique, la langue de feu, alors qu'il semble être factuel dans le reste du texte ? Ben, c'est une bonne question. Je n'ai pas forcément de réponse à ça. Je pense que Luc utilise partout ailleurs dans l'évangile, dans la construction de son évangile, on pourrait une fois s'y arrêter là-dessus, beaucoup de symbolique. C'est un scientifique. Les symboles, il connaît. Ici, je pense qu'il utilise le symbole de la langue de feu, parce que personne n'a reçu une langue qui brûlait. Il utilise cette symbolique pour dire ce qui les habitait intérieurement. La Pentecôte, c'est quelque chose qui me pousse à les communiquer vers les autres, à dire les merveilles de Dieu. Et pour exprimer cette trajectoire, il me semble qu'ici, Luc utilise des symboles qu'il a utilisés ailleurs, en particulier dans les naissances de la nativité, dans les récits de la nativité, et qu'il va utiliser aussi, en particulier, lors de la Semaine Sainte, la symbolique. Mais on pourra peut-être en reparler une fois, et je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà dépassé le temps, largement dépassé le temps qui m'était alloué. Mais merci de jouer le jeu avec ces questions. Je trouve chouette qu'on ait un petit espace comme ça pour l'échange. Puis l'échange, on peut toujours le continuer après ou en semaine ou dans les ateliers bibliques à venir au mois de septembre. Je crois que nous allons chanter un chant de circonstance. Viens, Saint-Esprit, viens.
Demandez et vous recevrez. Dieu, il peut donner aussi sans qu'on demande. Mais je pense que c'est aussi bon qu'on demande le Saint-Esprit sur nous. Viens, Saint-Esprit.
Viens, Saint-Esprit, viens. déverser
ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs.
Que le Saint-Esprit puisse se manifester en nous. Et on va partager ce temps de scène. On peut y penser, des fois, on a envie de mettre des degrés, des catégories sur ce qu'on appelle le péché, nos manquements, nos erreurs. On les classe. Il y a les petits, il y a les moyens, puis il y a les graves. Il y a ceux qu'on a tendance à répéter, mais il y a ceux qu'on pourrait avoir tendance à tolérer presque. Et des fois, c'est même pire, ça nous permet de comparer, et puis de nous comparer aux autres. Mais je ne crois pas que ce soit comme ça que Dieu voit nos péchés. Même s'il y a peut-être bien des choses qui sont plus graves ou qui ont plus de conséquences que d'autres, Dieu, lui, il est saint, il est pur, il est parfait. Et il ne peut pas se mélanger à ce qui ne l'est pas. Peu importe nos efforts, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Mais vous, vous avez été lavé. Vous, vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il n'y a pas eu d'autre moyen que la croix, le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et c'est ça qui nous, ce qui nous séparait de Dieu, ben ça disparaît. Et c'est comme ça que nous pouvons nous présenter devant lui. Alors devant cette table, nous nous souvenons que pendant le repas, Jésus prit du pain. Il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain. Il le donne à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu Il donne la coupe à ses disciples et ils en boivent tous. Jésus leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens. Je vous le dis, c'est la vérité, je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Je vous invite à prier. Donne-nous ton esprit, Dieu très bon, et fais de ce simple pain, de ce simple vin, la vie même de Jésus-Christ. Qu'elle donne vie à nos vies et nous pénètre, nous transformant à ton image. Qu'elle nous permette de participer à ton œuvre pour être témoins à l'image de tes disciples recouverts par cette langue de feu et pour pouvoir parler de tes merveilles autour de nous. Amen. Alors on va passer, j'invite les personnes à venir nous rejoindre.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Nous avons cru, nous avons vu. Te remercions de nous faire participer à ton salut. Te remercions pour le scellement par le Saint-Esprit. Nous pouvons désormais te dire « Abba, Père ». Nous réjouissons de ce jour où nous partagerons ce repas avec toi et la multitude de celles et ceux qui nous ont précédés, qui nous accompagnent aujourd'hui et qui nous suivront probablement. Ton nom soit béni. Amen.
Je vous invite encore à chanter tous ensemble Notre Père. Et en même temps, il y aura les petits sachets qui vont passer. Ces petits sachets, ça permet de récolter une offrande complètement volontaire et si possible dans la joie et la confiance. Parce que c'est grâce à vos dons durant les offrandes ou tout au long de l'année que notre Église, l'Église, fonctionne et qu'elle peut témoigner de l'amour du Père ici. Amérin, parler de ses merveilles. Alors vous pouvez peut-être vous lever et on va chanter Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux,
Abba, 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 Ab
pouvoir partager un peu de ce qu'on a. Merci parce que tu es la source de toute vie, de toute chose. Et aide-nous à nous te faire confiance, même quand les fins de mois peuvent être difficiles. Et que tu bénisses cet argent, et que tu le permettes de faire fructifier pour l'Église, mais que tu le fasses fructifier aussi dans nos vies, comme tu fais fructifier tes fruits en nous. Amen. Alors je vous invite à rester debout, parce qu'on arrive au bout du culte. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous garde aujourd'hui, demain, tous les jours. Lui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Laissons Dieu nous secouer. L'Esprit Saint se manifeste et il œuvre de différentes manières. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. C'était dans Galates. Mais surtout que nous puissions manier cette langue de feu et parler des merveilles de Dieu, que nous puissions en être témoins dans notre quotidien, partout où nous irons, jour après jour. Alors bon dimanche, bon week-end de Pentecôte et bonne semaine.